Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous avons eu le récit dans l'Épître de la belle vision qu'eut Saint Jean de la multitude des saints dans le ciel. Et l'évangile que l'Église a choisi pour cette fête de la Toussaint est celui des béatitudes. Si tous ces élus sont maintenant dans le ciel, en effet, c'est parce que sur terre, ils ont pratiqué les béatitudes, qui, on peut dire, sont vraiment un programme complet de vie chrétienne. Aujourd'hui, donc, l'Épître nous montre le ciel et l'Évangile nous indique le chemin du ciel. Et c'est de ce chemin que nous allons parler pendant quelques instants. Le mot « béatitude » vient du fait que chacune commence par le mot « bienheureux ». Les béatitudes, c'est donc le secret du bonheur, du vrai bonheur, celui que nous a apporté notre Seigneur, et non pas l'illusion de bonheur que nous fait miroiter le monde d'aujourd'hui et qui ne fait que conduire en enfer. Il y a 8 béatitudes qui sont comme une marche ascendante vers le ciel. On les classe ordinairement en 3 groupes. Les béatitudes du détachement, les béatitudes de la vie active et les béatitudes de la vie contemplative. Tout étant couronné par la béatitude des persécutés. Les 3 premières béatitudes constituent ce qu'on appelle les béatitudes du détachement. En effet, pour aller au ciel, il faut commencer par quitter tout attachement excessif, désordonné, à cette terre et à nous-mêmes. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il ne s'agit pas ici de la pauvreté matérielle. Notre Seigneur dit les pauvres en esprit. En effet, on peut être pauvre matériellement et riche en esprit, parce qu'on cherche le paradis sur terre et qu'on est envieux, jaloux de ceux qui ont de la fortune. Et inversement, on peut être riche matériellement et pauvre en esprit, parce qu'on est détaché de ses richesses et qu'on en fait profiter le prochain. La pauvreté spirituelle consiste non seulement à ne pas rechercher à accumuler les biens matériels sur cette terre pour s'enorgueillir et pour mener une vie la plus confortable possible, mais elle consiste aussi et surtout à être pauvre de soi-même, c'est-à-dire s'estimer pécheur et tout attendre de notre Seigneur. Et cela conduit à la deuxième béatitude. Bienheureux les doux. Saint Thomas d'Aquin dit en effet que ce sont souvent les biens matériels qui sont cause de conflits entre les hommes. Et les querelles arrivent aussi quand les hommes sont vexés dans leur orgueil. Mais si l'on est détaché des biens matériels et détaché de soi-même en pratiquant la première béatitude, eh bien nous serons moins durs dans nos rapports avec le prochain. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, dit notre Seigneur. Bien sûr, la douceur dont il s'agit ici n'est pas synonyme de mièvrerie. Notre Seigneur n'était pas mièvre. La douceur est le fruit de la force. La force qui calme l'impatience et qui canalise et modère la colère quand celle-ci est nécessaire. S'impatienter et se mettre en colère de manière excessive, c'est un manque de force, c'est un signe de faiblesse. Notre Seigneur dit que les doux posséderont la terre. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Ici, la terre, bien sûr, ce ne sont pas les biens matériels, puisque nous venons de dire qu'il faut nous en détacher. La terre, ce sont les âmes. Si nous avons la douceur surnaturelle de notre Seigneur, unie à une force surnaturelle, eh bien nous ferons la conquête des âmes. Nous attirerons, comme notre Seigneur, comme les saints attiraient. Les saints étaient très fermes sur la doctrine, sur la morale. Ils combattaient les erreurs de leur temps avec vigueur et en même temps, ils attiraient tout le monde par leur douceur. La troisième béatitude est la béatitude des larmes. Bienheureux ceux qui pleurent. À première vue, cela paraît paradoxal. Comment peut-on être bienheureux quand on pleure? Eh bien, tout dépend sur quoi on pleure. Si nous pratiquons les béatitudes du détachement, eh bien, nous pleurerons l'attachement excessif aux vanités du monde et aux biens matériels que nous avons pu avoir dans le passé, nous pleurerons sur nos péchés. Et si nous avons ce genre de pleurs, eh bien, nous serons consolés, dit notre Seigneur, parce que nous obtiendrons le pardon de nos péchés et parce que nous serons comblés des biens spirituels qui seuls peuvent rendre vraiment heureux. Dieu seul est plus grand que l'âme, dit sainte Thérèse d'Avila. Passons maintenant au second groupe de béatitudes. Après les béatitudes du détachement, les béatitudes de la vie active. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il faut bien comprendre ce mot de justice. La vertu de justice est celle qui nous fait accomplir tous nos devoirs envers Dieu et envers le prochain. Cette béatitude nous invite donc à être zélés dans l'accomplissement de nos devoirs envers Dieu et envers le prochain. Et l'on peut rattacher à cette béatitude le conseil principal de Notre-Dame qui est au cœur du message de Fatima. Le plus important, dit sœur Lucie, est l'accomplissement du devoir quotidien et l'offrande des sacrifices nécessaires à l'accomplissement de notre devoir pour les pauvres pécheurs. Si nous faisons cela, nous serons rassasiés. Qu'est-ce que cela veut dire? En un autre endroit, notre Seigneur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». La correspondance fidèle à la volonté de Dieu du moment présent est la seule chose qui puisse combler une vie, qui puisse donner grande paix et grande force intérieure. C'est donc notre nourriture. C'est cela qui nous fait avancer. Et c'est le péché qui déséquilibre une vie, au contraire, parce qu'on ne correspond pas à la volonté du bon Dieu. Mais comme hélas, notre fidélité a des hauts et des bas, et que parfois nous pouvons nous demander si nous ne méritons pas la colère de Dieu plutôt que sa bienveillance, alors notre Seigneur apporte la cinquième béatitude. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette béatitude nous est donnée par notre Seigneur comme une sainte ruse, un moyen infaillible de désarmer la colère de son Père à notre égard. Si nous faisons miséricorde à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne pourra pas ne pas nous faire miséricorde. Et c'est infaillible, car en nous donnant cette béatitude, notre Seigneur s'engage en quelque sorte à nous obtenir le pardon de son Père. Et d'ailleurs, il nous l'a appris dans la prière du Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnons et nous serons pardonnés. Nous passons maintenant au dernier groupe de béatitudes. Après les béatitudes du détachement et les béatitudes de la vie active, nous avons les béatitudes de la vie contemplative. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté ici est à prendre au sens large. Pour voir Dieu, il faut être pur de tout péché mortel. Mais nous pouvons prendre aussi la pureté dans un sens restreint. Aujourd'hui, le péché dans lequel le démon travaille tous les jours à faire tomber les hommes, avec la complicité de tous les gouvernements, c'est le péché d'impureté. Le péché d'impureté, c'est celui qui obscurcit le plus une âme, qui est le plus opposé à la vie spirituelle. Notre-Dame à Fatima dit que le péché qui fait tomber le plus d'âmes en enfer est le péché d'impureté. Puissent les catholiques comprendre quel trésor ils ont dans leur âme quand ils sont en état de grâce. Ils sont alors les temples de la Sainte Trinité. C'est le trésor le plus grand qu'on puisse avoir sur terre. Pensons-y. Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui gouverne ce monde, qui le maintient dans l'existence, il est en nous lorsque nous sommes en état de grâce. Nous pouvons nous appuyer sur lui à tout instant. Il est le Dieu infini qui nous donnera sa force infinie, ses lumières infinies. Quel trésor! Et que les catholiques alors repoussent avec la dernière énergie, avec une sainte violence, tout ce qui peut les faire tomber dans l'impureté et leur faire perdre ce trésor. Coupant par exemple aussitôt l'ordinateur ou le téléphone portable dès qu'ils se sentent attirés par quelque chose d'impur dans ces engins-là. N'abîmons pas notre âme, ne perdons pas notre trésor, ce trésor unique, nous sommes les seuls sur cette terre en tant que catholiques à pouvoir avoir ce trésor. Ne le gaspillons pas. Et notre Seigneur passe à la 7e béatitude, bienheureux les pacifiques. Les pacifiques dont parle notre Seigneur, ce ne sont pas ceux qui veulent s'entendre avec tout le monde pour ne pas avoir d'histoire, comme font les libéraux ou les œcuménistes. Le mot pacifique vient du latin pacem facere, faire la paix, être artisan de paix. Mais qu'est-ce que la paix? La paix, dit saint Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre, c'est-à-dire la tranquillité qui se produit quand tout est conforme à l'ordre des choses établi par Dieu. Les pacifiques, les vrais, ceux de l'Évangile, ceux des Béatitudes, sont ceux qui travaillent à faire régner notre Seigneur autour d'eux. Parce que c'est notre Seigneur qui est le prince de la paix, princeps pacis. Lui seul est capable d'apporter la paix à ce monde parce que lui seul, par sa croix, a détruit le péché. Alors nous pouvons maintenant récapituler toutes ces béatitudes. Si l'on veut aller au ciel, il faut d'abord se détacher des biens de cette terre et se détacher de nous-mêmes. Bienheureux les pauvres en esprit. Ce qui nous aide à avoir plus de douceur dans nos rapports avec le prochain. Bienheureux les doux. Et ce qui nous fait pleurer sur le trop grand attachement que nous avons eu dans le passé par rapport aux vanités de ce monde et à notre volonté propre. Bienheureux ceux qui pleurent. Ce sont les béatitudes du détachement. Viennent ensuite les béatitudes de la vie active. Fidélité à tous nos devoirs. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et miséricorde envers le prochain pour obtenir le pardon de nos infidélités. Bienheureux les miséricordieux. Enfin, ce sont les béatitudes de la vie contemplative. Être et rester en état de grâce, bienheureux les cœurs purs, et répandre autour de nous la paix du Christ par le règne du Christ, bienheureux les pacifiques. Évidemment, cela suscite des oppositions, car sur terre et jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours une guerre totale envers ceux qui veulent suivre notre Seigneur, et ceux qui ont pris le parti du monde. Pour qu'on ne se décourage pas des incompréhensions, des oppositions qu'on peut rencontrer jusque dans notre famille parfois, notre Seigneur ajoute une 8e béatitude. Bienheureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal sur vous à cause de moi. Soyez dans l'allégresse et dans la joie, car votre récompense sera grande dans les cieux. Unis avec lui sur la terre par la croix, nous lui serons unis au ciel dans la gloire avec tous les saints. Demandons cette grâce à notre Seigneur au cours de cette messe, par la médiation de la très sainte Vierge Marie, reine de tous les saints, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.